L'atelier radio du collège La Nacelle présente
la suite des aventures de Patty Perrot.
Patty Perrot & Co.
Longue-vie.
Monsieur Larue.
C'est
la vie,
c'est la
vie. T'as pas ta voix, t'es
Bonjour, c'est notre quatrième émission en compagnie de Patty Perrot. Les émeraudes, les cow-boys et l'Eldorado seront au programme d'aujourd'hui. La Colombie est une terre d'aventure qui attire des personnes en quête de trésors. Parmi ses richesses, les émeraudes, en espagnol, Esmeralda. Pour parler de cette terre d'aventure, accueillons un Esmeraldero. Jean-Claude Michelou, français installé depuis 1976 en Colombie, vit aujourd'hui dans le quartier historique de Bogota, appelé la Candelaria.
Qu'est-ce qu'un Esmeraldero ?
Un Esmeraldero ? Eh bien, un Esmeraldero, c'est une personne qui vit du commerce de l'émeraude, c'est-à-dire qu'il achète des pierres ou en brut ou taillées, et il les revend, et en fait, il vit des bénéfices qu'il tire de ce commerce. On appelle aussi les Esmeraldero les gens qui extraient et qui recherchent les émeraudes. Tout ce qui a relation au négoce de l'émeraude, et ici, tous ces gens-là sont appelés des Esmeralderos.
Les émeraudes étaient-elles déjà recherchées par les Indiens ?
Ah oui, bien sûr, elles ont toujours été recherchées par les Indiens, bien avant la conquête espagnole. Lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique latine, les premières émeraudes qu'ils ont découvertes n'étaient d'ailleurs pas en Colombie, puisqu'ils y sont venus après. C'était d'abord au Mexique, où Cortés a trouvé des émeraudes chez Moctezuma, à Tenochtitlan, dans l'Empire aztèque, et où Pizarro a trouvé aussi des émeraudes, de grandes quantités d'émeraudes au Pérou. D'ailleurs, il pensait que les émeraudes étaient péruviennes et non pas colombiennes, puisqu'ils étaient arrivés d'abord au Pérou. C'est tout à fait par hasard, d'ailleurs, qu'on a trouvé les emplacements. Un des capitaines espagnols qui patrouillait la zone de Musso à l'époque a eu son cheval qui s'est mis à boiter. Il est descendu de son cheval et il a trouvé un cristal d'émeraude sous le sabot du cheval. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé les gisements. Mais les émeraudes étaient bien sûr échangées entre différentes communautés préhispaniques depuis bien avant l'arrivée des Espagnols. Et Cortés a trouvé, entre autres, pour l'anecdote, une émeraude en forme de pyramide qu'utilisaient les Aztèques au moment des sacrifices humains, puisqu'ils pratiquaient beaucoup de sacrifices humains. Donc pour certains personnages, ils mettaient cette émeraude sur la tête du supplicié. On disait que ça avait pour effet de le calmer au moment du supplice, parce qu'on leur arrachait le cœur et ils le mangeaient tout cru.
Où se situe Musso ?
Alors Musso se situe à environ 120 km en ligne directe à vol d'oiseau de Bogota, au nord-ouest de Bogota.
Quels sont les endroits où l'on trouve des émeraudes en Colombie ?
La ceinture de production d'émeraudes se trouve donc à une centaine de kilomètres au nord, disons, de Bogota, et elle part depuis la zone de Musso et Cosquez, qui sont les deux mines qui se trouvent à donc l'ouest de cette même ceinture, et la mine de Chivor, Buenavista et Gachala qui se trouvent sur le versant donc est. Les mines qui produisent le plus sont celles de Musso et de Cosquez qui se trouvent sur une même montagne mais de chaque côté du versant de cette montagne. Et lorsqu'on va d'une mine à l'autre, on emprunte une route où il y a finalement à peine 30 km de piste pour aller d'une mine à l'autre. Et si on passait par au-dessus la montagne, il y aurait à peine une dizaine de kilomètres.
Comment se présente-t-elle à l'état brut ?
À l'état brut, l'émeraude est un cristal octogonal, plus long que large. Ces cristaux se trouvent engoncés dans des roches mères, du schiste, du quartz. On extrait ces cristaux en faisant sauter la dynamite des pans de montagne, de manière à retrouver les veines. Et puis ensuite, avec un marteau piqueur ou des petits marteaux spéciaux.
De quelle couleur sont-elles ?
Eh bien, elles sont rouges.
Toutes ?
Non, non, c'est une plaisanterie. Elles sont vertes.
Oh, c'est
ce que j'allais dire. Vertes. Mais... Les émeraudes sont vertes.
Comment exploite-t-on les gisements et y a-t-il des mines comme pour le charbon ?
Les gisements s'exploitent de deux manières principales. D'abord, l'exploitation à ciel ouvert. On gratte la montagne de haut en bas, donc il y a la dynamite. Les bulldozers dégagent les gravats de la montagne et puis on cherche dans les gravats. La deuxième manière, c'est de percer des tunnels, donc perpendiculaires à la montagne, donc un petit peu comme les mines de diamants ou même certaines mines de charbon.
Et les filles, c'est quoi un guaquero ? Dans la terre d'aventure, les chercheurs de trésors sont appelés guaqueros. Leur surnom vient du fait qu'ils creusent des trous pour rechercher leurs trésors.
Un trou en espagnol se dit hueco, et par déformation, on obtient les guaqueros. Parmi les guaqueros, on trouve des chercheurs de trésors précolombiens qui creusent des tombes comme un pillard égyptien creuserait une pyramide. Demandons à Jean-Claude si les chercheurs d'émeraudes sont aussi appelés guaqueros.
Bon, on emploie ce mot bien évidemment pour les gens qui cherchent des pierres, parce que ça revient finalement à être des chercheurs de trésors.
Quelles sont leurs conditions de travail ?
La condition de travail du guaquero, c'est quelqu'un qui se lève le matin au lever du jour, il prend sa pelle et sa pioche, et il va ou bien dans la rivière, ou bien sur les flancs de montagne, chercher les filons, ou alors il se met en bas de la mine, il attend que la mine fasse des renvois de déchets, et puis il cherche. Voilà. Donc il travaille jusqu'à 4h l'après-midi, à 4h l'après-midi, ben, il a travaillé toute la journée, il remonte chez lui, il se couche et il essaie de trouver la pierre qui va lui donner le moyen de faire vivre sa famille. Bon, ce sont des conditions très précaires. En général, lorsqu'ils trouvent une pierre de valeur, ben, ils ont tendance à dépenser l'argent très aussi vite qu'ils l'ont trouvé. Et ils retombent dans la misère. Voilà ce que c'est qu'un guaquero.
En fait, on peut dire qu'en faisant les poubelles, ils trouvent de l'argent.
Aujourd'hui, c'est un peu ça, oui. C'était différent il y a quelques années. Mais aujourd'hui que les sociétés d'exploitation minière sont organisées, eh bien les guaqueros n'ont plus accès aux terrains les plus riches. Il y avait jusqu'aux périodes de neige jusqu'à 50 000 guaqueros en bas de la mine qui cherchaient des pierres. Et en temps normal, en dehors des fêtes, donc il y avait jamais moins de 20 000 personnes. Aujourd'hui, il en reste 2-3 000, c'est tout.
Peuvent-ils devenir riches par leur travail ?
À de très 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 rares exceptions, non. Non. Certains sont devenus riches, mais pas par leur travail. Ils ont plutôt trouvé des pierres de valeur en ayant la chance et puis de les trouver. Et puis ils ont su gérer leur capital et à ce moment-là acheter aux autres guaqueros, ne plus. Mais c'est jamais par le travail de fouille pur et simple que ces gens deviennent riches.
Peut-on encore trouver un filon inconnu et l'exploiter ?
Bien sûr. Bien sûr, on peut trouver des nouveaux filons. D'ailleurs, on en trouve, même pas c'est assez rare, on n'en trouve pas souvent. Et pour aujourd'hui trouver des nouveaux filons, il faudrait mettre en place un système d'exploration assez coûteux et les producteurs, qui sont des gens privés, ne veulent pas assumer les investissements pour ce genre d'exploration. Ils demandent de l'aide étrangère ou bien la participation du gouvernement, ce qui est injuste parce que ce sont des sociétés qui gagnent quand même beaucoup d'argent.
Est-ce que les guaqueros s'installent près de la mine ?
Ah, les guaqueros vivent pratiquement sur la mine. Pas sur la concession elle-même, puisque la concession maintenant est fermée au public, mais ils sont tout autour. Et ils construisent des baraques qui deviennent des véritables petits villages accrochés à flanc de montagne. Il y a toujours, de toute façon, ces bourgades qui restent accrochées. À Mousseau, ça a diminué. Je dirais il y en a la moitié qui a disparu, d'abord parce qu'il y a des effondrements de terrain et qui ont été d'une part provoqués par la nature et d'autre part provoqués par la main de l'homme parce que les concessions ne sont pas complètement étrangères à ce grand coup de balai qu'ils ont voulu donner dans ces villages de guaqueros qui étaient accrochés juste en bas de la mine. Mais à Cosquez, par contre, oui, il y a encore pas mal de personnes qui vivent sur les sites miniers et qui peuvent encore de temps en temps aller travailler dans le bas de la rivière. On les laisse rentrer sur des concessions parce que ce sont des gens qui ont été intégrés à un système coopératif juste après la fin de la guerre des émeraudes en 91. Donc ils ont parfois plus de chances que ceux de Mousseau.
La soif de richesse ne provoque-t-elle pas des conflits hier comme aujourd'hui ?
Bien sûr, ça a provoqué des conflits terribles entre les années 70 jusqu'en 91, où il y a un accord de paix qui a été signé entre les deux clans principaux qui contrôlaient l'un les mines de Cosquelles, l'autre les mines de Mousseau. Et c'est les gens de Mousseau qui ont gagné, qui ont pris le pouvoir et la majorité du contrôle sur l'ensemble des mines, même sur les mines de Tchivor. Alors c'est sûr que ces rivalités dues bien sûr à la soif de richesse, eh bien, ont fait en l'espace d'une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, environ 18 000 morts.
Place à la douceur dans ce monde de brutes. Écoutons de la musique.
Pas trop douce la musique.
Et si on écoutait Shakira, la chanteuse de rock la plus connue de Colombie ?
Nous venons d'écouter Shakira, mais une musique de western serait plus appropriée à la partie qui va suivre, car dans une terre d'aventure, il y a non seulement des Esmeraldes Roses, mais aussi des cow-boys. Ça, c'est Patty Perrot qui nous l'a dit, mais c'est Jean-Claude Michelou qui nous l'explique.
Comment est-ce que vous les avez découverts, ces cow-boys?
Oh ben, c'est pas difficile, il suffit d'aller dans les llanos, dans ces grandes prairies, hein, c'en est plein, ils sont pas cachés. Hein. C'est la vie de tous les llanos, que ce soit... C'est pas seulement particulier à la Colombie, c'est pareil au Venezuela. Venezuela, Colombie, le bas de l'Équateur, toutes les parties de grandes plaines et d'élevage, eh bien, dans cette partie de l'Amérique, on trouve des cow-boys. Au Brésil, c'est la même chose. Hein. Il y a des cow-boys comme au fin ouest.
Ont-ils la même allure que dans les westerns?
Non. Ils ont... De loin, oui, mais de près, non. Ils ont des chapeaux de feutre, effectivement, mais qui sont avec des... Le dessus est arrondi, il n'est pas renfoncé comme les cow-boys du Far West. Ils ne portent pas d'armes à la ceinture et ils ne portent pas de bottes. Ils ont des petites savates, telles des espadrilles de cordelettes, qu'ils utilisent uniquement, d'ailleurs, pour marcher sur le sol. Lorsqu'ils sont à cheval, ils montent pieds nus avec leurs pantalons retroussés jusqu'aux genoux. Donc ils ont le bas des jambes complètement découvert et ils montent des chevaux qui sont dont des selles qui sont équipées d'étriers en triangle. Ils posent le bout de leurs pieds sur le triangle et il y a à l'extrémité intérieure du triangle un petit cercle rond dans lequel ils mettent le pouce. Et voilà, c'est comme ça qu'ils montent sur leurs chevaux. Alors les travaux des cow-boys, bon, c'est des travaux saisonniers. Ils travaillent deux fois par an au moment du ramassage des bétails. Le ramassage du bétail s'effectue en novembre et en avril. C'est le moment où les vaches ont déjà eu leurs veaux, donc on va récupérer le cheptel pour marquer les veaux et on ramène le troupeau qui sont élevés à l'état sauvage. C'est des énormes étendues, donc c'est pour ça que les cow-boys vont les chercher. Comme au Far West, ils ramènent le bétail au corral de la grande propriété. Et puis on marque les bêtes, on soigne celles qu'il faut soigner, on prend une partie du bétail qu'on garde pour l'emmener le vendre sur les places marchandes.
Quelles sont leurs coutumes?
Bon, déjà, ils ont une musique un peu particulière, la musique des llanos. Ils ont des petites guitares à quatre cordes et ils ont des harpes. Mais les harpes, c'est pas pratique à emmener sur les chevaux. C'est pour ça que les guitares sont petites d'ailleurs, parce que au coin du feu le soir, ils aiment bien pousser la chansonnette. Alors ils font des grands feux et leur mets principal, c'est le veau. Ils prennent un veau, ils le tuent, puis ils le découpent en grandes lamelles et ils le font cuire à plat sur des branches qu'ils ont préalablement positionnées en forme de pyramide, de manière à ce que ça fasse bien griller la viande, et puis voilà, c'est ce qu'ils mangent. Comme autre coutume, bon, ils ont des danses un peu particulières, où ils tapent du pied avec leurs petites sandalettes, s'ils ont un jeu qu'on appelle le coléo. Alors c'est un jeu, ils font une grande allée entourée de barrières de 400 ou 500 mètres de long sur environ une vingtaine de mètres de large, et ils mettent des box en bois au début de l'allée dans lesquelles ils installent des taureaux, et ils lâchent les taureaux préalablement piqués avec des dards pour qu'ils partent à toute vitesse. Ils courent derrière dans cette espèce de couloir avec le cheval, ils rattrapent le taureau, ils prennent la queue du taureau en se baissant, ils la passent sous la jambe, ils accélèrent le cheval, et par accélération, ils déséquilibrent l'arrière du taureau. Le taureau est déséquilibré, il a son train arrière qui se lève, il tombe par terre en faisant un soleil. Et en fait, le jeu consiste à le faire sur une distance préalablement déterminée. Il faut pas que le taureau tombe mal. S'il se fait mal, eh bien le cavalier n'a pas marqué de points. Enfin voilà, il y a tout un tas de règles. Et sur les barrières de chaque côté de ce couloir, eh bien s'installe tous les autres cow-boys ou bien tous les gens qui viennent à participer à ces jeux, et tout le monde crie, voilà. Puis alors il y a aussi le lasso, il y a aussi attraper les bêtes avec des cordelettes, avec des noyaux d'avocats groupés pour que ça fasse un petit peu de poids. Ils enroulent ça autour aussi des pattes des animaux récalcitrants lorsqu'ils s'échappent du troupeau. Puis ils domptent leurs chevaux, parce que les chevaux des cow-boys sont des chevaux qui vont chercher dans la pampa à l'état sauvage. Il y a des tas de hordes de chevaux, ils sont en général 30 ou 40 par horde, où il y a un ou deux étalons, et le reste ce sont des juments et des poulains. Plusieurs fois dans l'année, ils vont ramasser les hordes, et puis ils ramassent des chevaux, ils les ramènent au corral, et puis alors là ils les domptent. Et chaque cavalier dompte son propre cheval.
Où est-ce qu'ils emmènent les bêtes?
Il y a certaines propriétés d'élevage. Donc les plus grandes propriétés sont les plus retirées de la montagne. Il n'y a pas de route pour arriver dans ces endroits-là. Donc les propriétaires, eux, se déplacent avec des petits avions sur des pistes en herbe. Et puis les cow-boys, eux, se déplacent à cheval, bien évidemment, parce qu'il n'y a même pas de piste pour que les voitures s'acheminent. Deux fois par an, on emmène les troupeaux à travers la prairie, jusqu'au pied des montagnes où se trouvent des villes, où là, bien sûr, il y a des routes, il y a un commerce de bétail. Donc il faut, selon l'endroit où se trouve la propriété, entre une et deux semaines d'acheminement des troupeaux.
Chaque guaquero cherche à trouver son Eldorado. On sait que cette légende provient de Colombie, mais demandons plus d'explications à Patty Perrault, qui s'est certainement renseignée auprès de l'intello prise de tête.
Actuellement, l'Eldorado, ça s'écrit en un seul mot. On parle de l'Eldorado, mais au début, on parlait de l'Eldorado, c'est-à-dire, en fait, en espagnol, le doré. Et qui appelait-on comme ça, donc, au XVIe siècle? C'était en fait les caciques ou les chefs indiens qui avaient une coutume qui était de s'enduire le corps de poussière d'or. Donc ils étaient dorés et on les appelait les El Dorado. Et c'est devenu maintenant le terme El Dorado en un seul mot.
Qui a entendu le premier cette légende?
Les légendes, il y a toujours plusieurs versions. Alors, au nord de Bogota, il y a un lac où avant, chaque année, le cacique, c'est-à-dire le chef indien, de la tribu des Muiscas avait pour coutume de s'enduire le corps de miel et puis ensuite de poudre d'or. Une fois que cela était fait, il allait au milieu du lac. Il y avait un certain nombre de rameurs qui l'emmenaient au milieu du lac, des rameurs qui n'avaient pas le droit de le regarder tellement il paraissait un dieu. Et une fois au milieu du lac, il se plongeait dans l'eau. Ainsi, il perdait la poudre d'or. La poudre d'or était comme un don offert aux dieux. Lui, c'était aussi une sorte de purification. Et tout au cours du lac, les gens des tribus, de la communauté, jetaient dans le lac des émeraudes ou de l'or.
Et Elsa, tu sais ce que c'est une pêche miraculeuse?
Ben, c'est quand tu pêches un gros poisson.
Mais non, une pêche miraculeuse colombienne.
Ah, ben non, je sais pas. Mais demande à Patty Perrault, lui. Il doit savoir. T'as de la chance, c'est l'heure du patipérage.
Bonjour, Patty Perrault, la voix dans le micro. Comment ça va de l'autre côté du poste? Plus que 100 km et la micromobile remettra les roues à Bogota, capitale de la Locombie. 2600 mètres plus près des étoiles, dit la publicité. Cool Hercule, à 2006, les journées avec leur haut et leur bas sont de toute façon au-dessus de la moyenne. Puis, c'est plus pratique pour compter les nuages avant de se mettre à rêver. Pour l'instant, ça grimpe et ça descend. On passe d'une montagne à une autre. Prise de tête explique que dans ce pays, même la géographie est loufoque. La cordillère s'est divisée en trois pour simplifier les choses, et l'ingénieur qui a dessiné la route devait en tenir une bonne, car elle tourne comme un ivrogne. Quant au climat, il s'en donne à cœur joie. En quelques heures, on vient de traverser les quatre saisons d'une année, et même l'intello ne sait plus comment s'habiller. Moi, j'ai le nez collé à la fenêtre, comme les veilleurs de songe. Et comme dans un songe, tout est beau. Ici, les paysages vous tiennent par les yeux et refusent de lâcher. La nature est tellement généreuse que l'herbe pousse sur les fils électriques. Il y a des arbres partout, même plus la place pour y loger une chèvre. De temps en temps, nous croisons une tache de poésie, un arbre tout rouge, un autre tout bleu, voire arc-en-ciel. Mais là, j'exagère un peu. J'ai l'imaginaire qui dérape, même s'il est vrai que, comme carte postale, j'ai rarement vu aussi coloré. Nous sommes pourtant à la hauteur des premiers nuages. Ils chutent du haut des montagnes, comme des cascades, au ralenti, puis s'éparpillent dans les vallées. Trouble fait, elle surveille la route les phares grands ouverts. C'est qu'il ne faudrait pas tomber sur ce qu'on appelle une pesca milagrosa, une pêche miraculeuse. Drôle de fête foraine, quand soudain, au détour d'une route, on se trouve nez à nez avec des hommes armés d'un air intimidant et d'un arsenal de fer. Policiers, guérilleros, paramilitaires, on ne sait jamais vraiment, mais ce sont tous des belles brochettes qui ont besoin d'un fusil pour expliquer qu'ils ont raison. Ils n'étaient pas d'accord, t'es mort. C'est simple, ces individus ne se compliquent pas la vie. Sous leur scalp, c'est le désert. Leur niveau de jugeote ne dépasse pas leurs bottes en caoutchouc crotté. Ainsi, pour financer la lutte pour El Pueblo Unido, ils stoppent le trafic et pillent voitures et bus en se lavant les mains aux sources de la bonne conscience. Je vous dis pas comment cela irrite les cellules de Trouble Fête la Révoltée. El Pueblo Unido en a marre de ces mercenaires aux pensées figées dans le passé. Comment peuvent-ils inventer un futur monde, dit-elle. La révolution est devenue affaire de brigands et une bonne excuse pour commettre les pires forfaits. L'amour est le seul combat réellement révolutionnaire. Avec un peu de chance, après avoir été arrêté, humilié, fouillé, si vous êtes en possession de signes extérieurs de richesse ou employé par une grande compagnie étrangère, c'est gros lot, suivez le guide. Ces pirates de la route vous invitent du bout du fusil à visiter la jungle en attendant le versement d'une rançon. Il n'y a pas de meilleur guide qui soit. Le retour à la civilisation peut alors prendre des mois, si retour il y a. Mais là, je vous sens toutes tremblantes, petites oreilles aventurières. Fresco, allez, les amis, c'est finish.
Voilà, c'est presque terminé pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, écoutons un peu de musique en hommage au quartier de la Candelaria, où beaucoup de monde passe, comme le groupe français La Mano Negra ou L'Air de Rien que nous écoutons actuellement.
Patipero & Co.
Longue vie
vous a été présenté par Fatou,
Elsa
et Pauline. Merci à Jean-Claude Michelou, bien qu'il ne nous ait pas donné d'échantillon d'émeraude.
Touchez la rue.
C'est belle la vie, c'est belle la vie.
T'as pas ta rue, c'est vrai.